Sécure épisode technique. Je suis accompagné de François. Est-ce que tu peux te présenter?
Bonjour Nicolas. Alors je me présente François Corbigard. J'ai cofondé Defense il y a quelques années maintenant. Et avant ça, j'ai travaillé dans la cybersécurité depuis 2003. J'ai fait une dizaine d'années à l'Agence nationale de la cybersécurité en France, donc la NSSI, où j'ai travaillé essentiellement sur la réponse aux attaques informatiques, tout ce qui est réponse aux incidents. J'ai fait ça une dizaine d'années jusqu'en 2012, puis ensuite j'ai rejoint le ministère des Armées, plutôt sur la partie recherche de vulnérabilité, analyse de produits de sécurité, ce genre de choses, et beaucoup de rétroconception, d'analyse de malware. J'ai fait ensuite quelques années chez Orange Cyberdéfense, où j'ai rencontré beaucoup de mes collaborateurs actuels. Et j'ai terminé mon parcours en allant chez Mendiant, en tant que consultant en réponse incident aussi.
Un parcours très, très robuste, justement, en réponse à incident. Puis c'est justement ce qu'on va aborder aujourd'hui, une forme d'introduction à cette notion-là, un point de vue plus technique naturellement dans ce cas-ci. On parlera pas de compliquation, mais vraiment de comment on répond à un incident quand un sujet se déclare et qu'est-ce qu'on arrive comme ça. Je vais te laisser commencer à te présenter un peu l'évolution de ce que c'est, parce que ça a beaucoup changé. Puis de mes souvenirs, quand j'en faisais il y a 10 ou 15 ans, on n'est plus dans le même univers qu'on est maintenant. Donc je vais te laisser aborder ça, puis on rebondira à des questions.
Avec plaisir. La réponse incident, c'est un peu comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui est mis en œuvre à partir du moment où il y a une cyberattaque, et surtout quand cette cyberattaque elle est détectée. Ça, c'est un point important, puisqu'on peut très bien avoir des acteurs qui sont présents sur un système, sur un ordinateur, pendant plusieurs semaines, mois, voire années, avant d'être effectivement détectés. La réponse incident va être mise en œuvre à partir du moment où il y a une détection, et l'objectif est de comprendre comment est-ce que les attaquants sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont pu faire, depuis quand ils sont arrivés. Donc répondre à tout un tas de questions pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, regagner la confiance sur son système d'information et pouvoir faire en sorte d'augmenter le niveau de sécurité. Pour faire ça, quand j'ai débuté en 2003, beaucoup du travail consistait d'abord à récupérer de la donnée. Ça reste toujours un enjeu, premier enjeu, récupérer de la donnée pour pouvoir faire l'investigation. Et cette donnée-là, c'était essentiellement faire des copies de disques ou faire des copies mémoire, collecter des journaux d'événements un peu partout. Aujourd'hui, c'est des choses qui ont beaucoup évolué. Et à partir de ces données-là, on fait une investigation post-mortem. On entend souvent parler de digital forensic. Et l'idée est de partir de ces systèmes qui sont a priori compromis, éteints, et remonter la timeline des attaquants, donc comprendre ce qui a été fait pour répondre à toutes ces fameuses questions. Il se trouve qu'avec l'explosion des cyberattaques, mais aussi l'explosion du nombre de systèmes, aujourd'hui, on peut très bien avoir des multinationales qui sont compromises, qui va impliquer des dizaines de milliers de machines à analyser. Et tout de suite, on commence à se rendre compte que faire des copies de disques de dizaines de milliers de machines, ça commence à être très problématique, ne serait-ce que pour le stockage, pour télécharger ces copies sur des serveurs. Et donc, l'investigation a évolué vers des approches, on va dire, un peu plus frugales en termes de collecte de données l'apparition notamment des EDR est une évolution justement de ce qui est fait aujourd'hui avec des EDR qui vont être capables de faire déjà des premières détections, avoir des capacités de première réponse sur les postes, vont être capables aussi de remonter des informations, de la télémétrie ou des données. Mais on s'aperçoit que malgré ça, il y a toujours un espace pour l'investigation. Et cette investigation aujourd'hui, elle s'appuie sur les données, en tout cas nous c'est comme ça qu'on travaille, elle s'appuie sur les données qui sont accessibles ou peuvent être remontées par ces fameuses EDF. Donc on a vraiment un changement comme ça de paradigme depuis que j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui où le volume des données n'a fait que croître. Donc on doit aussi avoir cette capacité de faire aussi bien, voire mieux, avec moins de données collectées.
Ouais, donc, on est vraiment passé d'un côté où on faisait vraiment des images au complet des systèmes qui étaient notre seule façon vraiment de creuser l'incident à l'usage de signaux qui sont maintenant considérés, tu mentionnais justement les EDR ou maintenant ce qu'on appelle les XDR parce que c'est plus marketing que EDR où on vient justement mettre en appui en arrière du EDR toute la quantité de signaux qui est obtenue, un SIEM essentiellement qui vient justement nous appuyer énormément dans la détection et plus dans la carte de comment reconstruire l'événement dans le temps. Puis c'est un des éléments qui est probablement le plus difficile à faire, c'est de reconstruire la chaîne d'événements qui a mené à l'incident.
Oui, absolument. La reconstruction d'une timeline, c'est le nerf de la guerre. C'est être capable de retracer toutes les actions de l'attaquant en essayant de réduire autant que possible les zones d'ombre. Parce que plus on va avoir une timeline précise et la plus complète possible, plus on réduit les angles morts sur ce qui a été fait par l'attaquant. Et ça permet de regagner ensuite une meilleure confiance dans le réseau ou dans les systèmes qui doivent être restaurés. Donc ça, c'est extrêmement important, d'autant que la chronologie d'une cyberattaque va aussi avoir énormément d'impact sur l'économie d'une entreprise, puisque c'est des choses qu'on a vues encore très récemment. Les attaquants, notamment dans le cas de groupes de ransomware, vont soit tenter de détruire les sauvegardes, soit tenter d'être sauvegardés avec les données légitimes, de sorte à pouvoir être réinstallées ou en tout cas restaurées a posteriori. Donc comprendre quand est-ce que l'attaquant est arrivé en premier lieu, qu'est-ce qu'il a pu faire et jusqu'à où, quand il a pu réaliser ses actions, c'est très important parce que ça va avoir des impacts critiques hein, sur les entreprises. Par exemple, il y a des cas d'entreprises où les attaquants font de l'atteinte sur des données potentiellement confidentielles et des entreprises peuvent perdre des marchés ou des contrats de cette façon-là parce que les concurrents arrivent à se positionner sur des contrats de manière un peu plus pertinente. Donc, comprendre que voilà, l'attaquant était sur les réseaux de tel mois à tel mois, eh ben on sait que potentiellement sur ce type de contrat, l'entreprise a des vrais enjeux économiques sur ce type.
Ouais, tout à fait. Puis ça, c'est une chose qui a aussi énormément, en tout cas, moi, de mon expérience, qui a évolué. Avant, il y avait très peu de latéralisation des attaquants. Donc, c'était facile. Avec une simple image du système compromis, on savait qu'on avait déjà probablement la majorité de ce qui s'était passé dans les systèmes. Quand maintenant, les attaquants ont beaucoup évolué. De façon très archétype, c'est-à-dire de l'adolescent dans son sol qui veut juste faire du bruit à des groupes criminels organisés comme des entreprises essentiellement où on change un peu la donne. Donc, le besoin aussi a évolué dû à l'évolution des attaquants.
Ouais, c'est très juste. On remarque ça hein, quand on fait des investigations, justement. On remarque, c'est des choses qu'on voit tous les jours hein, dans notre quotidien là, sur notre plateforme, mais c'est vrai qu'on a vu ça et ça se démarque aujourd'hui beaucoup plus de manière très marquante. Quand j'ai commencé, on va dire que la timeline d'un attaquant était assez proche ou très cohérente, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir des groupes d'attaquants et on voit que le passage de relais entre l'équipe d'intrusion et les équipes de on va dire, faisait la découverte et l'accès aux ressources intéressantes se faisait de manière assez proche, notamment dans le temps, ou alors si c'était pas proche dans le temps, c'était proche techniquement. Et aujourd'hui, c'est des coupures un peu plus franches qu'on voit tant sur les méthodologies que sur la chronologie des attaques entre les groupes d'attaquants. Donc, pour nous, il est devenu assez facile d'identifier, bah, tiens, en fait, là, on a de l'activité qui correspond à un groupe d'attaquants Ici, on a un autre groupe d'attaquants qui est intervenu pour tel type d'action sur le système d'information, et ainsi de suite. Donc, on voit vraiment des fenêtres de temps durant lesquelles les attaquants travaillent. Et il y a un autre point très important que vous mentionnez, Nicolas Loïc, c'est sur la capacité des attaquants à se latéraliser sur un réseau. Et ce réseau, finalement, en fait, cette capacité à se latéraliser, elle est presque indépendante de la taille du réseau. Donc, un attaquant va pouvoir atteindre énormément de machines assez rapidement. Ce qui, pour lui, ne représente pas beaucoup d'efforts, représente un effort considérable pour réponse incident ou pour un investigateur. Et ça, c'est à prendre en compte, puisque aujourd'hui, on a cette nécessité de regarder la quasi-totalité du parc informatique pour s'assurer que l'attaquant a pas mené une action particulière sur un poste du système. C'est-à-dire qu'il pourrait faire la même action, on va dire, ou tout simplement un scan sur 99 machines, mais une action particulière sur une de ces 100 machines. Et là, on s'aperçoit qu'on touche du doigt qu'il ne faut pas louper cette machine. Donc, il faut être capable de traiter les 100 machines de manière complètement identique et apporter le même process d'investigation sur toutes ces machines. Et ça, c'est un point important où on peut revenir un peu à ce qui se faisait il y a longtemps, où on allait faire des investigations plutôt ciblées. Aujourd'hui, on a besoin de faire des investigations sur des grands périmètres pour pouvoir lever tout doute et toute zone d'ombre sur ce qu'aurait pu faire l'attaquant.
Oui, tout à fait. On passe d'un environnement qui était plus artisanal, du moins pour ceux qui répondent aux incidents, un environnement qui doit s'industrialiser justement pour être capable de traiter le volume de... Le volume d'attaque dans lequel on fait face maintenant, puis pas juste le volume, mais en tout cas la littéralisation maintenant qui a rendu la façon quasi universelle d'opérer maintenant des attaquants.
Aujourd'hui, c'est très vrai hein, sur cet aspect d'industrialisation, c'est même aujourd'hui... une nécessité, hein. C'est vraiment une nécessité pour être capable d'aider et de répondre à un maximum d'entreprises qui sont victimes. On a beaucoup de clients qui viennent nous voir parce qu'ils se retrouvent dans des situations où ils n'ont pas la capacité de répondre à tous les clients qui viennent les aider. Et c'est encore plus difficile quand on sait que ces entreprises ben, peuvent faire faillite entre 12 à 18 mois après une cyberattaque, d'autant plus si elles n'ont pas d'aide pour affronter finalement ce choc-là. Et donc l'industrialisation devient vraiment une nécessité, tant pour les entreprises qui fournissent hein, la prestation de réponse incident, que pour les entreprises doivent avoir accès à ce type de service. Je prends l'exemple, en France, on a aujourd'hui des antennes régionales qui ont pour objectif de jouer le relais auprès des petites entreprises, des petites et moyennes entreprises, pour les aider à avoir accès à ces prestations, avoir accès à identifier les bonnes personnes, les bonnes entreprises qui pourraient les aider en cas de cyberattaque. C'est vraiment aujourd'hui un enjeu de pouvoir aller adresser le maillage économique le plus petit possible pour pouvoir faire en sorte de les aider face à ces cyberattaques. Et qui dit industrialisation, finalement, aujourd'hui, en tout cas dans l'aspect technologique, on va parler énormément d'automatisation. Avoir une capacité à traiter des gros volumes de données ou des grands parcs informatiques de la même façon qu'on est capable de traiter une machine. Donc, ne plus avoir cette distinction, ou en tout cas cette limite d'échelle. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est rendu possible avec le SaaS, hein, tout ce qui est cloud, où on est capable de faire des passages à l'échelle extrêmement faciles en termes de capacité de stockage, de puissance de calcul, qui nous permettent de dire, OK, bah, aujourd'hui, l'incident auquel je réponds, qui initialement avait commencé avec une dizaine de machines, et ben je me retrouve maintenant avec 2000 machines. Comment est-ce que je peux suivre cet incident sans pour autant casser en fait le process d'investigation? Et il y a une autre chose qui contribue à l'industrialisation de ces process, qui passe par l'uniformisation des process, des méthodologies, faire en sorte que les équipes puissent utiliser les mêmes outils, déjà ça serait très bien, mais aussi les mêmes façons d'opérer, d'avoir vraiment ce côté collaboratif et temps réel. Moi, l'exemple que j'utilise souvent, c'est il faudrait être capable aujourd'hui, et on travaille pour ça, c'est être capable de faire de l'investigation de manière collaborative, comme aujourd'hui on édite un document Word de manière collaborative. Et ça, c'est extrêmement important. Donc l'automatisation et cette collaboration qui viennent, qui sont les pierres angulaires finalement de cette industrialisation.
Oui, oui c'est, ça change un peu ça pour ceux qui répondent. Puis en plus, on parle, puis là, vous avez vraiment une visibilité très grande là-dessus sur l'augmentation énorme des attaques. Quand on parle d'évolution, il y a 10-15 ans, on avait eu une attaque de temps en temps ou une attaque réussie de temps en temps, alors que maintenant, on a des attaques réussies quotidiennement. Ce n'est pas plusieurs fois par jour si on passe sur le territoire d'un pays, par exemple.
Oui, cette augmentation, très souvent, on ne peut que la ressentir. On peut avoir des indicateurs. Et pour autant, on a une infime partie, hein, c'est systématiquement ce sommet de l'iceberg que l'on voit parce que on a des systèmes de détection qui font preuve de beaucoup d'ingénierie, hein, que ce soit par de l'IA ou ce genre de choses, mais qui sont finalement, qui ont été construits sur ce que l'on sait. Et ces systèmes-là, finalement, sont capables de détecter uniquement ce que l'on connaît. Les IA permettent d'élargir ce spectre, de le rendre un peu plus permissif ou tolérant à des changements, mais les systèmes de détection aujourd'hui ont été conçus avec ce biais qui est on détecte ce que l'on connaît. C'est là où il y a un gros enjeu, finalement une difficulté à quantifier le nombre d'attaques effectives, comme tu disais Nicolas Loïc, les attaques qui sont réussies, celles qui sont tentées, et de tout ça finalement celles qui ont un impact, celles qui sont ensuite détectées. Et dans ce process-là, finalement, il y a un effet tunnel qui fait que on a de visibilité qu'une partie, une infime partie des attaques qui sont menées. Et pour autant, dans cette infime partie, eh ben, on constate une explosion du nombre de ces attaques, de ces incidents. Et je rebondis sur un caractère un peu annexe, mais ce sont des attaques qui fonctionnent et qui continuent d'être en augmentation parce que économiquement, notamment pour les aspects de cybercriminalité, on a vu se développer donc les attaques par ransomware avec de l'extorsion et on voit maintenant apparaître, en tout cas c'est plus qu'admis, des doubles extorsions. Donc ça veut dire qu'il y a ce caractère finalement d'enjeu économique qui reste un des gros moteurs pour continuer d'alimenter finalement ce nombre de cyberattaques.
Oui, c'est un univers qui est en pleine croissance. De toute façon, là, on est dans une cybercriminalisation et très, très massive de ça. Eux-autres même se sont industrialisés, comme je mentionnais un peu plus en amont. Cet effet-là d'industrialisation doit avoir aussi un impact très important sur la capacité de réponse. Au-delà du volume, il y a quand même un niveau technique. Les approches doivent avoir évolué.
On a une évolution. Il y a deux types d'évolution que je vais mentionner. Alors, il y a notre évolution en tant qu'entreprise. On est là aussi pour faire évoluer les choses. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que, on va dire, je résume ça de manière assez simple, mais des experts qui ont une expertise en réponse incident et aussi cette volonté de créer une entreprise, finalement, c'est un combo de deux circonstances qu'on ne retrouve pas forcément partout. Donc, ce qui fait que La réponse, un silo est un domaine qui évolue évidemment, mais qui a peut-être plus de difficultés à évoluer. Et l'autre aspect, c'est l'évolution de manière très, très haut niveau pour les entreprises, ce changement de maturité et de prise de conscience. Si je commence par l'évolution plutôt technologique, on le voit aujourd'hui avec l'avènement des EDR, on a beaucoup de technologies EDR qui apportent vraiment un atout considérable sur la façon dont on détecte et dont on répond aux cyberattaques, mais qui viennent aussi créer une difficulté, une nouvelle difficulté qui est pour les prestataires de réponse incident, cette nécessité de gérer finalement plusieurs technologies d'EDR différentes et qui doivent parfois jongler entre les technologies pour mener une investigation. Ça, c'est quand il y a de la technologie à disposition, parfois les équipes d'investigation, comme c'est arrivé bien trop souvent, on arrive sur une cyberattaque et finalement on n'a pas accès à de la technologie ou alors on doit répondre avec les moyens du bord en attendant de déployer les technologies. Et ça sous-entend qu'il faut une capacité presque autonome de pouvoir gérer les investigations. Ce qu'on a développé dans notre entreprise, donc chez Defend, c'est une plateforme qui vise à automatiser le traitement de ces données. L'objectif est d'avoir une plateforme qui fonctionne sans agent, mais qui soit pour autant capable de s'interconnecter avec des EDR ou que l'on soit capable de verser des données qui ont été collectées dedans. Et l'une des grosses évolutions par rapport à ce qui existe aujourd'hui, c'est que on peut prendre l'état de l'art. Aujourd'hui, l'état de l'art, c'est très souvent, ça ressemble à une feuille Excel. Hein, c'est des lignes dans lesquelles on essaie de lire justement la timeline, la chronologie de l'attaque. On a choisi, nous, de modéliser toutes ces données sous forme de graphe et de s'orienter sur comment est-ce que l'attaquant il est passé d'un élément A à un élément B et ainsi de suite pour suivre tout l'enchaînement. Et ce changement de paradigme, déjà d'avoir un outil visuel et un outil plus intuitif, permet à l'analyste de suivre le cheminement d'une attaque de manière beaucoup plus facile que de lire des feuilles Excel, peut être extrêmement fatigant. Donc ça, c'est aujourd'hui la façon que nous, on a choisi de venir contribuer à l'évolution de l'investigation et de la réponse incident, c'est en apportant une autre façon de visualiser la donnée qui soit beaucoup plus facile et de pouvoir finalement résumer une feuille Excel de plusieurs millions de lignes en quelques nœuds sur un graphe. Donc ça, c'est notre approche d'un point de vue très technique. Et l'autre évolution qui est beaucoup plus haut niveau aujourd'hui pour les entreprises, c'est ce que l'on appelle, et c'est ce que l'on voit plus souvent appelé sous le nom de TDIR, pour Threat Detection, Investigation and Response. Et ça, pour moi, c'est vraiment important parce que ça montre une évolution où la réponse aux incidents et de manière un peu plus globale, l'investigation fait partie intégrante des process de détection et de réponse. Et ça, c'est un enjeu important puisqu'aujourd'hui, quand on regarde l'écosystème, on a beaucoup, tu en as mentionné quelques-uns, les XDR, on a les EDR, on a beaucoup de technologies en détection et réponse. Et aujourd'hui, on voit ce changement arriver qui est vraiment en cours avec, on a besoin de plus que ça. On a besoin de détecter, d'investiguer pour comprendre la menace, pour pouvoir y répondre de la meilleure façon. Et cette approche qui s'appelle le TDIR est une approche qui est vraiment importante pour les organisations parce qu'elles vont leur permettre d'évaluer en propre les menaces qui leur sont importantes pour leur business. Et comme on le dit un peu souvent, c'est parfois une même menace va avoir deux impacts différents pour deux entreprises. Même si techniquement c'est la même chose, elle ne sera pas gérée de la même façon dans les deux entreprises et elle n'aura pas le même impact sur ces deux entreprises.
Oui, absolument. De toute façon, en cyber, de façon large, le contexte vaut tout. Et justement, tu le mentionnes bien que même incident a des impacts différents selon la nature de l'entreprise, selon la nature des données, selon la nature du... puis même, tout dépendant de sa protection en cyber. Je vais rebondir sur les éléments où on arrive dans un environnement où il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équipement comme ça. Je trouve ça intéressant parce que ça regroupe probablement 80% des gens ou des petites entreprises qui se retrouvent avec... qui ont sous-investi pour différentes raisons, des bonnes et des mauvaises. Mais on va faire fi qui devraient faire mieux, mais on arrive dans des situations justement comme ça. Comment on peut aborder un client comme ça ou une entreprise qui a vraiment zéro élément qui est présent et comment on peut l'aider à relever de son incident rapidement?
Alors, l'une des premières choses, mais qui est facile à dire, hein, mais c'est vrai que pour une entreprise qui est victime d'une cyberattaque, c'est la difficulté, c'est de garder son sang-froid et de prendre les décisions les plus éclairées possibles. Pour faire ça, en fait, on a besoin d'informations. Et comme tu le disais, on a besoin de contexte. Tant l'investigation a besoin de contexte sur l'entreprise, mais tant l'entreprise a besoin de contexte sur l'incident pour comprendre et pouvoir réagir. Quand on arrive sur ce genre d'incident, on a fait en sorte d'industrialiser évidemment le travail technique, donc l'approche plutôt digital forensic qui se fait dans la plateforme. Mais il faut se dire que c'est juste un des trois piliers qu'on a besoin. Le deuxième pilier, une fois qu'on a standardisé, homogénéisé, automatisé les outils, c'est comment est-ce qu'on fait pour homogénéiser les process? Puisqu'on va arriver, comme tu le dis, hein, dans des entreprises où il n'y a rien, comment est-ce qu'on fait pour être performant dans une entreprise où il n'y a rien, pour être aussi performant, ou en tout cas le plus performant possible, par rapport à une entreprise où on aurait accès à beaucoup de technologies. Et pour ça, c'est énormément de process. Comment est-ce qu'on fait pour standardiser les process? Pour ça, aujourd'hui, nous, on s'appuie sur des outils qui existent, qui sont déjà utilisés par les équipes de... réponse incident. Ces outils servent aujourd'hui à collecter de la donnée directement depuis les machines qui sont potentiellement compromises. Et en utilisant finalement cette donnée de base, ce qui est des fichiers qui sont collectés sur les machines, eh ben on arrive au dénominateur commun. Tout ce dont on a besoin pour comprendre l'investigation provient de ces fichiers. Donc à partir du moment où on est capable de récupérer ces fichiers, que ce soit par un glisser-déposer, par l'envoi d'un mail ou par un outil de collecte ou par un EDR, eh ben, la plateforme est capable de faire ce travail d'investigation. Donc ça, c'est le deuxième pan, hein, ce process. Et ensuite, le troisième, mais qui est probablement le plus important, c'est les personnes. Comment est-ce qu'on fait pour former les gens à utiliser les outils? Les gens, comment est-ce qu'on les forme pour maîtriser ces fameux process, que ce soit des process simples? Aujourd'hui, il y a une vraie difficulté qui est que l'investigation, la réponse à l'incident, ça reste un domaine assez élitiste parce que difficile à prendre en main. C'est des domaines qui peuvent prendre jusqu'à plusieurs années avant d'être, on va dire, maîtrisés, même si on maîtrise en cybersécurité jamais vraiment un sujet complètement, mais il faut plusieurs années pour maîtriser un sujet. Alors que les cyberattaques, elles augmentent aujourd'hui. Elles deviennent plus complexes aujourd'hui. Donc, on a besoin d'experts aujourd'hui et non pas d'experts dans 3-4 ans une fois qu'ils sont. C'est là où notre plateforme, on a fait en sorte qu'elle soit la plus facile possible à utiliser. Parce qu'on a besoin que les outils soient faciles de prise en main, soient plus simples à comprendre et à intégrer dans les process pour pouvoir former plus rapidement des gens. Et aujourd'hui, on est plutôt content puisque on arrive à former des gens dans un espace de 0 à 2 mois pour qu'ils soient opérationnels. Donc, ça veut dire qu'on peut très facilement former comme ça des gens et c'est la pierre angulaire. Je parlais d'automatisation, de collaboration, mais à un moment donné, ceux qui portent l'investigation et ceux qui permettent de répondre à une cyberattaque, ce sont les gens qui sont au contact finalement des équipes dans les entreprises. Qui font, eux, le travail de remédiation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris par où étaient passés les attaquants, eh ben, très souvent, ce sont les administrateurs système dans les entreprises elles-mêmes qui connaissent le contexte de l'entreprise, qui peuvent agir et appliquer les remédiations.
Très intéressant. Puis effectivement, là, c'est très complexe pour avoir eu des cas comme ça. Puis justement, d'amener la montée en compétence à vitesse extrême, parce que quand on est dans un incident, on peut pas attendre. L'édifice est en train de brûler. Donc, il faut montrer aux gens comment devenir des pompiers au moment même où l'édifice brûle. Donc, c'est un défi très, très important. On va terminer l'épisode sur le fait sur votre plateforme. Tu en as fait mentionner un peu sur justement l'usage de graphes. Vous avez développé une plateforme justement qui permet d'accélérer de façon substantielle le traitement, puis justement d'arriver dans des contextes plus en absence de signaux, en absence de choses justement qui vont aider. Est-ce que tu peux en parler un peu justement pour qu'on puisse comprendre les avantages oui, de cette industrialisation-là que vous amenez et essentiellement qui est, très, à mon avis, très importante?
Ouais, effectivement, on a beaucoup travaillé et ce que je disais sur l'industrialisation est toujours aussi vrai. On a travaillé sur une plateforme qui permet vraiment d'automatiser tout le traitement et le pré-traitement, ce qui parfois prend le plus de temps à un analyste. Aujourd'hui, on a travaillé sur cet angle qui est l'automatisation, préparer la donnée pour l'analyste, et sur le deuxième aspect qui est la collaboration. On a effectivement dans notre plateforme cette capacité à délivrer de l'information qui soit claire et lisible. Donc, on peut faire l'expérience, hein, mais si je dois donner un exemple, on modélise l'information sous forme de nœuds, donc des nœuds dans le graphe qui sont reliés à d'autres nœuds par un lien. Et ce lien-là porte un verbe d'action. Donc, si on résume, on a un sujet, un verbe et un complément. Donc, ce qui nous permet comme ça très facilement de traduire l'information comme étant voilà, tel utilisateur s'est connecté à telle machine. Et ça, n'importe qui est capable de le lire. C'est ce qui fait que la difficulté pour faire ce travail d'investigation est drastiquement réduite. Un autre avantage justement dans notre technologie, c'est de pouvoir utiliser finalement ces graphes pour assister l'analyste dans son investigation. Si je prends ce même exemple-là, un utilisateur qui se connecte à une machine, si on sait que l'utilisateur est un attaquant, eh ben on sait que la machine, naturellement, est compromise. Donc, on est capable de faire ce genre d'induction dans notre plateforme de manière complètement transparente pour les analystes. Donc, à ça, on ajoute évidemment la puissance du SaaS pour appliquer énormément de règles de détection, ce genre de choses. Donc, ça, c'est vraiment, on va dire, sur la partie technique. Et l'autre enjeu aujourd'hui, c'est, et on en a parlé un peu avant, c'est la capacité à recréer la chronologie d'une attaque, la chronologie d'un attaquant. Et ça, c'est extrêmement difficile si tous les analystes font leur petit bout de chronologie dans leur coin. À un moment donné, il faut souvent agréger ça, il faut enlever les doublons et s'assurer qu'il n'y a pas de trou. Ça, c'est quelque chose qui est fait de manière complètement intuitive et naturelle dans notre plateforme. Chaque analyste va analyser un nœud, un graphe, un petit ensemble, et va pouvoir indiquer, OK, ces informations-là, je les veux dans la timeline, et tout le monde retrouve une timeline qui est bonne. Donc, on est capable comme ça, et on est très content de pouvoir réduire jusqu'à par 3 le temps nécessaire pour une investigation et surtout de pouvoir fédérer une équipe plus ou moins grande, hein, puisqu'on n'a aucune limite sur la plateforme, de pouvoir fédérer un nombre d'analystes pour traiter des incidents plus ou moins grands.
Super intéressant, justement, dans un univers où tu le mentionnais clairement que les analystes, pour devenir faire de la gestion d'incidents, ça prend beaucoup d'expérience. Donc, on a déjà. On manque déjà de gens en cyber de façon générale. On manque encore plus de gens dans des domaines spécialisés comme celui-ci. Ce genre de plateforme-là vient justement réduire cette problématique-là, de mettre dans les mains de moins de personnes la capacité de faire ça. C'est excellent. Je te remercie énormément. C'est un premier tour d'horizon. On va revenir sur des cas plus concrets, plus crunchy aussi d'ailleurs, qui vont être plus intenses. Parce que là, on était vraiment juste dans un espèce de tour d'horizon. Je te remercie énormément. Ça a été très intéressant de l'aborder comme ça.
Merci à toi, Nicolas.